Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Roussillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Carnet de région, l'actualité régionale de la semaine proposée par les radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. En ce mois de septembre, c'est RCF Pays d'Aude qui en assure la rédaction en chef. Dans les titres cette semaine, les manifestations contre la réforme des retraites. Ce mardi, Zoom à Montpellier et à Carcassonne. L'entreprise Jalat de Saint-Hippolyte-du-Fort dans le Gard ne peut plus fabriquer de chaussures de sécurité. Une réunion houleuse s'est tenue mercredi à Nîmes en préfecture. Un bilan de la saison touristique à Saint-Guilhem-le-Désert et dans les gorges de l'Hérault, 650 000 visiteurs et une saison qui s'allonge de plus en plus. Le réalisateur du film Gazland était à Montpellier le week-end dernier pour présenter son deuxième opus, toujours sur le même sujet, les gaz de schiste. Enfin, les rubans du patrimoine, un prix remis par la Fédération Lozérienne du bâtiment à des communes qui mettent en valeur le patrimoine bâti. Mais tout d'abord, une semaine marquée par une mobilisation nationale contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Mardi, une mobilisation en demi-teinte avec tout de même 3000 manifestants dans la capitale régionale, Montpellier. Le secrétaire CGT de Montpellier, Aimé Marie, joint par téléphone par Nicolas Rousseau de Radio Aviva, nous donne son sentiment.
On est satisfait en regard du calendrier. Et beaucoup de militants CGT se sont déployés pour faire participer un maximum de leurs collègues à cette manifestation qui, je le répète, se déroulait dans un calendrier serré par rapport à la rentrée scolaire et à la rentrée dans les entreprises.
Mmh. Et par rapport à cette réforme des retraites, est-ce qu'il reste, vous pensez, encore un espoir pour un éventuel revirement du gouvernement ?
L'opinion publique nous soutient largement. Malgré une absence flagrante de débat dans le pays. Donc le gouvernement actuel serait bien inspiré de prendre en considération l'état de l'opinion publique. Et on ajoute bien évidemment qu'il y a vraiment les moyens financiers pour répondre à une juste retraite par répartition. Hein, je ne donne qu'un chiffre. Les 500 plus grandes fortunes de ce pays ont vu leur richesse augmenter de 25% en un an. Ça représente 59 milliards d'euros. Et il faudrait sur une année 7 milliards pour combler les déficits de financement de la retraite par répartition.
Mmh. Quelles sont les prochaines actions prévues par la CGT ou en accord avec les autres syndicats ?
J'ai été informé que le 18 septembre, hein, là, il y allait avoir une nouvelle initiative, donc on est en train d'y travailler et de faire le point avec les militantes et les militants pour décider de quelle forme les actions allaient se mener le 18 septembre. Quoi.
D'autres rassemblements contre la réforme des retraites ont eu lieu mardi dans la région. À Nîmes, ils étaient 1500, 500 à Narbonne, 900 à Alès et 700 à Perpignan. À Carcassonne, la mobilisation a surpris avec 800 personnes. Ambiance et interview dans le cortège.
Augmenter les salaires par la durée de cotisation. Augmenter les salaires par la durée de cotisation.
Je suis à la retraite et je me demande ce qui va me rester dans quelques temps pour vivre et aussi pour aider mes enfants, car c'est ce que je suis toujours en train de faire. Des enfants qui ont peut-être plus de 50 ans, mais je me demande ce qui va arriver pour eux. Ça fait quelque temps que je n'allais plus aux manifestations parce que souvent les trajets sont longs, mais aujourd'hui je me suis dit qu'effectivement il fallait que j'y aille parce que tout le monde n'a pas la possibilité peut-être de bouger, de se déplacer ou de faire grève, donc j'ai préféré venir effectivement, voilà.
Vous êtes déçu qu'un gouvernement socialiste prenne ce genre de décision ou c'est pour vous c'était obligé qu'on en arrive là ou pas justement ?
Eh bien écoutez, nous sommes peut-être dans une situation difficile, mais il y a sans doute d'autres mesures à prendre parce que faire travailler les gens plus longtemps alors que les gens se font du souci pour leur travail à partir de 50 ans, ce n'est pas la solution. C'est certain que les gens ne vont pas travailler jusqu'à l'âge qui est prévu dans les statuts. Voilà.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Depuis 50 ans, l'entreprise Jalat est l'emblème même de la ville de Saint-Hippolyte-du-Fort, au sud des Cévennes. Principal employeur du village, cette usine de chaussures de sécurité connaît depuis plus de 15 ans des plans sociaux successifs. Depuis début septembre, l'usine n'est même plus approvisionnée en matériaux, l'empêchant d'assembler les 12 000 paires de chaussures produites habituellement chaque semaine. Le préfet a donc convoqué mercredi, à Nîmes, une table ronde réunissant les syndicats, les élus, les membres du cabinet du ministère du redressement productif et des représentants de la direction de Jalat Group. Mais comme l'explique Mario Albicek, secrétaire du comité d'entreprise à Rémy Goujon pour Radio Escapade, la réunion ne s'est pas passée exactement comme prévu.
Le premier étonnement, ça a été que les dirigeants italiens ne sont pas présentés à cette table ronde. Donc, ils s'étaient engagés en début juillet, que M. Ondeja, le président directeur général du groupe, serait présent pour cette réunion. Donc, il s'est encore résisté. Et donc, on a eu malheureusement que les responsables locaux, c'est-à-dire la DRH et un directeur commercial. Donc, déjà, ça a été une table ronde qui a grogné, parce que bon, même le préfet n'était pas satisfait de cette présence. Donc, il s'avère que c'est vrai que bon, on est en situation difficile, à savoir que dans le groupe, toutes les entités, il y a à peu près 5000 salariés dans le groupe, il est démantelé complètement et seul Jalat résiste. Toutes les autres entreprises sont en redressement judiciaire. Bon, il faut savoir que nous, on représente quand même 50% du chiffre d'affaires du groupe et ce qui intéresse ces dirigeants, et ils ne veulent pas faire un dépôt de bilan car on est encore rentable pour eux. Donc la seule solution, ils sont en train de rechercher un repreneur. Aujourd'hui, vu les problèmes en Tunisie où il y a eu quand même la révolution en 2009 et aujourd'hui en dépôt de bilan, donc c'est vrai que dans les usines de Saint-Hippolyte-du-Fort, on ne peut plus produire car nous n'avons plus de tiges pour pouvoir fabriquer. Donc à partir d'aujourd'hui, nous sommes pendant 15 jours en chômage technique. On sent que les hauts dirigeants jouent la montre. Donc on sait qu'il y a des repreneurs qui sont attachés à notre entreprise et qui voudraient bien reprendre celle-ci. On ne sait pas le rôle que joue cet actionnaire, donc c'est vrai que le préfet aussi a la marre d'être berné, et donc il a donné un ultimatum important le 20 septembre, et si le 20 septembre les hauts dirigeants ne font pas une table ronde en donnant leur position sur le devenir du site de Saint-Hippolyte-du-Fort, le préfet prendra la main, et je pense qu'on aura d'autres propositions de reprise de notre entreprise qui nous est chère, surtout dans le bassin viganais qui est vraiment touché par, malheureusement, par le chômage. Donc on sera vigilant et on attend cette date avec impatience.
La date du 20 septembre prochain sera donc fatidique pour l'avenir de l'entreprise Jalat et pour la centaine d'ouvriers encore en place à Saint-Hippolyte-du-Fort. Avec 650 000 visiteurs en moyenne par an, le site de Saint-Guilhem-le-Désert et des Gorges de l'Hérault reste un lieu très prisé des touristes, mais aussi des locaux. Comment s'est passé cet été 2013 ? Question d'Alain Mendès de Radio Lodève à Benoît Picard, directeur de l'Office du tourisme de la Vallée de l'Hérault, qui dispose de deux points d'accueil à la maison du site, Pont du Diable, mais aussi dans le village même de Saint-Guilhem.
Alors la saison s'est bien passée. Après, elle est dans l'air du temps, dans ce qui s'est passé un peu partout en France, c'est-à-dire un peu dans la morosité, avec des tendances légères à la baisse, qui sont encore difficiles à estimer, parce que la saison n'est pas finie, et la clientèle, les visiteurs du hors-saison, et notamment de l'automne, sont des visiteurs nombreux, et importants pour nous en termes d'activité économique notamment. Si on prend les chiffres depuis le début de l'année, on enregistre une légère baisse de moins 5, moins 6%, à savoir qu'on avait eu une année 2012 qui était exceptionnelle. Notamment, on avait eu une émission sur France 2, un prime time,
voilà qui avait, hein.
En 2012 et en 2011 également, donc avec des racines et des ailes. Donc il faut regarder sur des moyennes à 3 ans, et l'année 2013 est dans la norme si on prend la moyenne sur les 3 ans. Après, il ne faut pas se voiler la face, il y a des problématiques économiques. Il y a des secteurs d'activité qui ont souffert plus que d'autres. La restauration, surtout en début de saison, au mois de juillet. L'hébergement, ça a décollé très très tard, même si au mois d'août ça s'est bien rempli. On a eu des bons taux, on était complet une bonne partie du mois d'août. Et puis les activités payantes ont un peu subi cette problématique économique.
Et du côté de l'Office de tourisme, on est désormais bien rodé pour accueillir tous les visiteurs en juillet et août, mais pas seulement, car la fréquentation est de plus en plus étalée.
Sur les 5 dernières années, on va dire, la fréquentation saisonnière a nettement évolué. En passage Office du tourisme, sur leur saison, donc les mois de avril à juin et de septembre à octobre, ou à novembre, ont une tendance très sensible à l'augmentation, alors que l'été reste soit stable, soit des variations qui sont en plus ou en moins. C'est-à-dire qu'en fonction de la météo, de la problématique économique qu'on évoquait tout à l'heure, etc., ça va évoluer différemment en haute saison, mais qu'on a vraiment une tendance lourde qui correspond aux outils qu'on a développés, qu'on a mis en place, hein, les navettes le week-end, les ouvertures de la maison du Grand Site à partir du mois d'avril, des animations hors saison, etc. Donc c'est l'objectif qu'on s'est posé, et pour l'instant, on y répond. Nous, on ferme la maison du Grand Site au Pont du Diable début novembre, à la fin des vacances de Toussaint. Donc pour nous, la fin de saison, elle est là. Mais à Saint-Guilhem-le-Désert notamment, j'ai envie de dire, il n'y a presque jamais de fin de saison. Parce que dès qu'il y a un dimanche de grand soleil, eh bien, il y a un monde fou à Saint-Guilhem. La randonnée, c'est toute l'année. Aujourd'hui, toutes les activités de pleine nature se développent de plus en plus. Donc une donnée de l'étude de fréquentation qui est très intéressante, qui dit que 65 à 70%, et c'est 70% à Saint-Guilhem, des gens viennent en dehors de juillet-août. Ça prouve bien qu'il faut qu'on mette notre action là-dessus, sur cette période-là, d'autant que c'est des visiteurs qui ont un pouvoir d'achat en général plus important, qui font du séjour, alors que ceux de juillet-août sont des excursionnistes à la journée qui logent en bord de mer. Donc c'est vraiment une clientèle très intéressante sur laquelle il faut qu'on s'appuie.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gare.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le réalisateur américain du documentaire Gasland, Joss Fox, était à Montpellier le week-end dernier pour présenter l'Opus 2, une salle comble et de nombreux médias au cinéma Le Diagonal pour accueillir le réalisateur américain d'une quarantaine d'années qui fait de sa vie un combat contre l'exploitation des gaz de schiste. Rappelons qu'en 2010, son premier documentaire Gasland était le seul film à expliquer les méfaits sur la planète de l'exploitation des gaz de schiste. Alors pourquoi un second documentaire sur le même sujet? Joss Fox au micro de Robert Martin de Radio Pays d'Hérault avec à la traduction Maureen Johnson.
Well, why hasn't anything happened to address the crisis in most places around the world?
Il demande pourquoi on n'a pas fait quelque chose pour mettre fin à cette crise qui s'étale en fait sur le monde entier.
And in the United States, shale gas and fracking is one of the most controversial and important environmental issues of this moment, and there's such a huge awareness about it, just like everywhere else. My question is, when we have multinational oil companies,
le problème du gaz de schiste et de tout ce qui est autour est tellement énorme aux États-Unis, et le fait que personne n'y fait rien, qu'on ne bouge pas.
This is one of the most controversial issues in the United States right now. Where is our government? If we have multinational oil and gas companies committing human rights violations and degrading the environment all across our country, where's our government? How are they going to handle the crisis? This was the question of the film.
Donc la question que se pose Josh, c'est que fait le gouvernement alors que les grandes sociétés pétrolières commettent sans arrêt des violations de toutes sortes, en fait? Où est le gouvernement? Que fait le gouvernement des États-Unis?
En France, on a vu en 2010, grâce à votre film et à la mobilisation des Français, qu'une loi contre la fracturation hydraulique a été votée. C'est peut-être un bon signe pour les Américains.
Yes, I know. Yes, it's a very good thing. I think it's because the people of France said no. And they put pressure on the government to act. And the government responded. But it's thanks to the people who assembled and did protests and a direct action that France is leading the world in this type of in this area right now, and we're seeing that kind of movement spread around the globe.
Josh dit que c'est grâce aux Français eux-mêmes, c'est pas au gouvernement, c'est aux gens là dans la rue, les Français ordinaires, que cette pression s'est exercée sur le gouvernement français et qu'on a eu droit à cette loi. Pas le gouvernement, le peuple français.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
En cette fin de semaine, la Fédération lozérienne du bâtiment va remettre son prix départemental des rubans du patrimoine à la commune de Saint-Andéol de Clergomort dans les Cévennes. Un prix créé en 1994 et qui récompense des communes engagées dans des opérations de rénovation ou de mise en valeur du patrimoine bâti. Cette année, 3 dossiers ont été déposés et parmi eux, celui de la reconstruction du pont routier de Challes-de-Coste. Un pont reconstruit en pierre sèche suite à un épisode de pluie cévenole en 2008. Une première en France depuis 1950. Alors, pourquoi avoir opté pour un pont en pierre sèche? C'est la question que pose Ludovic Terol pour 48FM au maire de Saint-Andéol-de-Clergomor, Camille Leca.
Et bah parce que j'avais la conviction que le savoir-faire d'ingénierie ancien des années du 19e siècle, et puis même bien plus ancien, parce qu'on a le pont du Gard est aussi fait avec des arches plein cintre, est techniquement valable, et que ça vaut le coup de le remettre, dans nos cahiers des charges de marché public au niveau des communes. Et parce que je voulais valoriser le savoir-faire aussi des artisans locaux qui travaillent la pierre et qui génèrent de l'emploi local et qui et ça concourt à l'installation de nouveaux arrivants et au maintien des populations sur notre commune. Donc c'est un projet avec une vision globale, on va dire.
D'accord, un chantier qui a pris 3 ans, donc peut-être un peu long, mais au final les habitants sont contents de voir ce pont qui est présent sur leur commune.
Ah oui, alors ça a été un grand cadeau pour moi, parce que pendant 3 ans j'ai entendu les citoyens de la commune râler après moi en disant quand est-ce qu'il va construire ce pont, il devrait le faire plus vite et pas se poser trop de questions et le faire en béton. Une fois que le chantier a été mis en route et puis que les gens ont vu qu'est-ce qui se faisait, beaucoup ont dit « Ah, c'est extraordinaire !» C'est vrai que moi, ça m'a fait grandement plaisir que les habitants de la commune s'approprient cet ouvrage.
Et pour aller encore plus loin dans cette démarche, une école d'artisans en pierre sèche a été montée sur l'Espinasse, commune de Saint-Andéol-de-Clergomor, avec l'aide de l'association Artisans Bâtisseurs en pierre sèche et de la communauté de communes. En 4 ans, 70 stagiaires ont déjà passé le certificat de qualification professionnelle. La pierre sèche est de plus en plus demandée par les collectivités. L'école est d'ailleurs en train de s'agrandir avec la construction d'un hangar. Franck Fabre, artisan maçon tailleur de pierre et trésorier des artisans bâtisseur en pierre sèche.
On est donc sur la phase de chantier d'un bâtiment type hangar pour donc accueillir des stagiaires qui passent leur examen donc de pierre sèche et qui font de la formation, enfin qui sont formés donc aux techniques de la pierre sèche à cet endroit-là, donc à Espinasse, pour des formations concrètes, fait pratique, j'ai envie de dire, voilà. Et la formation est complétée d'itinérants sur des chantiers donc qui tournent sur des mairies qui ont des murs de pierre sèche à faire réaliser, entre autres la commune de Saint-Andéol de Clergomor ou encore Saint-Jean-de-Tournelle en sont des exemples. Voilà, puisqu'on s'occupe d'une formation qui s'appelle le CQP et qui est une formation d'environ 4 mois où on accueille 6 personnes, donc maçons, qui veulent se spécialiser ou savoir faire de la pierre sèche. On refuse du monde, ouais. On a grosso modo le double de candidats par rapport à ce qu'on peut prendre, donc on est obligé de les sélectionner. Malheureusement, il y a de plus en plus de collectivités, effectivement, du département entier, qui font appel à nos services, et notamment pour des savoir-faire assez spéciaux tels que la pierre sèche, la taille de pierre, l'échafaudage, par exemple, ou les enduits à la chaux, en sont d'autres. Et ensuite, nous, du fait de notre spécialisation et du fait des références qu'on a acquis grâce à ce type de chantier, on accède à des appels d'offres de marché public sur des patrimoines monuments historiques un peu plus audacieux, tels que des clochers d'église, des ponts, des chapelles, des châteaux, de ce type de chantier.
La semaine dernière, les nouveaux élèves ingénieurs de l'École nationale supérieure des mines d'Alès ont effectué leur rentrée scolaire. A priori, rien de particulier, sauf que la direction de l'école souhaite que sa 164e promotion soit sensibilisée à la création artistique. Pour cela, les élèves s'immergent une journée entière dans l'enceinte du théâtre d'Alès, le cratère. Ils y travaillent souffle, corps et voix, sous la direction de comédiens de la compagnie montpelliéraine Machine Théâtre. Avant de restituer, le soir venu, leur travail devant leurs camarades et la direction de l'école. Bruno Goubet, directeur de l'école des mines d'Alès, souligne l'importance du développement de la créativité chez les élèves au micro d'Yves Defagot de Radio Grille Ouverte.
Pour moi, la culture est un élément indispensable du cursus d'un élève ingénieur.
Dans la salle du cratère, il y a plein de jeunes gens. Qui sont-ils ?
Ce sont les premières années de la promotion. C'est la promotion entrante, hein, celle qu'on vient de recruter. Donc on a recruté 193 jeunes gens qui viennent soit du concours, où ils sont 150 du concours qui est organisé sur mathématiques spéciales. Il y en a une vingtaine qui sont recrutés sur titre.
Donc il ne faut pas seulement des ingénieurs à la tête bien pleine, il faut également des ingénieurs à la tête bien faite.
Absolument. De même qu'il faut aussi qu'ils aient Manasaline Corpore Sano, puisque vous savez que le sport pour nous est une constante de l'école des mines d'Alès, hein, qui gagne systématiquement le cartel de toutes les écoles des mines tous les ans. De même qu'il leur faut un cursus scientifique, un corpus scientifique fort, de même il leur faut la capacité de créer, d'inventer, d'innover. Et la création culturelle est un des outils qui leur permet de développer cette capacité.
Alors, j'ai lu de votre plume, je crois, les hussards du redressement productif doivent être cultivés. Qui sont ces hussards ?
Ce sont eux. Quand ils deviendront ingénieurs, ils ne seront pas que des diplômés d'une école d'ingénieurs, ils auront une mission. Ce que je leur ai dit quand je les ai reçus lundi matin, ils auront une mission, la mission de participer au redressement productif de ce pays, hein, ce qui est porté par mon ministre avec force et auquel je souscris. Je crois que nous sommes devant une période d'enjeux, une période d'un peu de combat sur ce domaine industriel, et eux seront ces jeunes gens, les hussards du redressement productif, hein, comparant aux hussards noirs de la République, hein, qui porteront fort justement cette capacité de créer et d'innover qui est l'une des façons que la France utilisera pour recréer son industrie, la redévelopper et reprendre l'un des tout premiers rangs qu'elle avait eu pendant très longtemps.
Ce redressement productif passe donc par la création artistique, par la sensibilisation à l'art.
Absolument. C'est l'une des facettes indispensables de ce que nous appelons, nous, la créativité. Alors nous les formons aux techniques industrielles de la créativité qu'ils vont appliquer dans des entreprises. Ce cursus est très développé déjà. Mais si on ne leur donne pas en même temps la vue de la création artistique, de la créativité artistique, ils perdront quand même beaucoup de la valeur humaine et de leur capacité à se projeter dans la société et avec les autres.
Preuve de l'enthousiasme de l'école des mines d'Alès vis-à-vis de l'art et de la culture, l'accueil le 19 septembre prochain du philosophe Alain Badiou et du comédien Alain Libolt pour une lecture et une rencontre de La République de Platon dans une nouvelle traduction parue récemment aux éditions Fayard. Alain Badiou endossera le rôle de Socrate et Alain Libolt incarnera quelques-uns de ses interlocuteurs et détracteurs dans une lecture scénique qui conjuguera théâtre et littérature. Un sujet d'Yves de Fagot de Radio Grille Ouverte.
Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
C'est la fin de votre carnet de région réalisé et diffusé par plusieurs radios associatives non commerciales de la région. Rendez-vous la semaine prochaine, même radio, même heure, pour une nouvelle édition.